RS Radio, la web radio 100% dédiée au directeur de la responsabilité sociétale des entreprises, animée par Alain Marty et Billy Ducourant, en partenariat avec l'entreprise Metron et le groupe EPSA.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à bord de RSE Radio. Vous êtes plus de 5000 directeurs de la responsabilité sociétale des entreprises et dirigeants d'entreprises abonnés à nos podcasts. Nous vous remercions d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Et bien sûr, vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte Twitter RSE Radio-du-Bac TV. À mes côtés, pour co-animer cette émission, Jean-Christophe Gianesini, bonjour à vous, merci d'être là.
Bonjour Billy.
Jean-Christophe, je rappelle que vous êtes directeur associé d'Ecodes et à vos côtés, on est reçu dans les locaux de Metron et c'est Tanguy Détrose, directeur adjoint, qui est avec nous. Bonjour Tanguy.
Bonjour Billy.
Aujourd'hui, notre invité, c'est quelqu'un d'assez étonnant. On va voir son parcours, on va voir son métier. C'est Olivier Bourasso, qui est directeur marketing, communication, innovation et chargé de mission RSE de JDLO. Bonjour Olivier.
Bonjour Billy.
Je dis que vous avez un parcours assez étonnant et on va y revenir. Juste avant, vous êtes né en Vendée et vous aviez, vous aussi, parce que beaucoup de gens qui viennent dans cette émission sur la RSE avaient envie d'être journalistes. Moi, je voudrais qu'on creuse un petit peu plus. Journaliste, pourquoi ? Pour raconter le monde ?
Alors,
évolution ?
Oui, je pense qu'il y avait l'idée d'être un peu dans l'action, en observant. Mais finalement, je suis un journaliste qui a mal tourné, parce que j'ai fini, comme dirait Ségala, j'ai fini dans la pub et dans la communication. Parce que je pense que la fibre créative a pris le dessus sur la fibre observatrice du journaliste.
En fait. Et puisque vous citez Ségala, je vois que vous n'avez pas de montre.
Ah non, alors et plus, pourtant j'ai 50 ans.
Ben voilà. Et vous n'avez pas raté votre vie pour autant. Alors, vous vous orientez donc vers la communication et le marketing avec un BTS et vous dites à l'époque où le BTS avait encore une valeur. Il n'y en a plus aujourd'hui de valeur d'un BTS ?
Ah non, je ne dirais pas ça. Je dirais qu'aujourd'hui, les supports ont changé et que c'est certainement pas suffisant. Maintenant, je ne me suis pas contenté d'un BTS, en fait. Hein. Ça a été une première étape, puisqu'après, effectivement, j'ai continué sur des fonctions marketing. Et notamment, il y a 25 ans déjà, une formation en marketing dans le social, puisque l'idée à l'époque, c'était d'intervenir dans les centres d'aide par le travail pour aller...
les ESAT.
Voilà, les ESAT aujourd'hui pour aller vendre, entre guillemets, le travail issu de ces ateliers-là auprès des entreprises. En fait.
Alors justement, vos études se terminent avec une alternance dans un ESAT. Donc on peut dire que déjà à l'époque, vous vouliez, un, que votre travail ait du sens et que vous aviez déjà cette... fibre un peu de la RSE, parce que dans cet ESAD, vous valorisiez le travail des personnes handicapées pour ensuite aller vendre leur savoir-faire. Là, on est vraiment dans le cœur aussi de l'inclusif, des achats inclusifs, de la RSE.
Oui, alors en même temps, je pense que je me posais pas toutes ces questions-là à l'époque. C'était plutôt une question d'opportunité. Mais effectivement, avec le recul, quand je vois ma fonction aujourd'hui, je me rends compte que cette dimension richesse humaine était déjà très forte, en fait.
Alors ensuite, vous allez intégrer le secteur de l'agroalimentaire. Et là, je vous trouve extrêmement courageux parce que vous allez, au départ, assumer la responsabilité du marketing des abattoirs, qui s'appelle LOL et Pierrot. Alors, l'abattoir, on peut dire que depuis quelques années, ça n'a pas vraiment une bonne presse. Et ensuite, vous allez être de responsable marketing de France Kebab. On est dans deux secteurs sur lesquels le jugement des Français et des médias sont assez sévères quand même. C'est pour ça que je trouve courageux.
Alors, oui, alors ça, c'est, je dirais que c'est la première partie de ma carrière. Alors, à l'époque, les abattoirs avaient certainement, j'allais dire, été moins dans l'œil du cyclone. Et puis, il y avait déjà dans cette entreprise-là une volonté quand même de travailler un peu le sujet. Et encore une fois, même si on n'en parlait pas comme ça, du développement durable, sur le bien-être de l'animal notamment. Et puis, France Kebab, bon, c'est un court passage, mais c'est un passage intéressant quand même, puisque puisqu'il s'agissait de mieux travailler la matière première, le produit qu'on proposait, justement en réaction à tout ce qui pouvait exister sur le marché du kebab. Donc on était plutôt là dans un travail autour de la valorisation du produit.
Alors après ces deux travails, vous reprenez le bâton de pèlerin, j'ai envie de dire, toujours en quête de sens. Vous allez travailler pour les jardins de l'Orbris. Est-ce que vous avez trouvé votre jardin d'Éden ?
Alors,
presque.
J'espère que ça finira mieux.
En fait,
je pense que c'est effectivement en arrivant dans cette entreprise en 2009, je ne présupposais pas de ce qu'elle serait 13 ans après. À l'époque, on était 9 salariés dans l'entreprise. Moi, je suis arrivé là en tant que responsable marketing. Dans une entreprise de cette taille-là, c'était déjà un vrai pari stratégique de la part des dirigeants. Et puis aujourd'hui, on est 86. On ambitionne d'être une centaine d'ici un an. Donc on est dans une vraie mutation de l'entreprise. Alors qu'il y a 13 ans, on était transformateur de fruits pour en faire des jus de fruits. Aujourd'hui, on intervient à l'échelle nationale, à l'échelle internationale, sur la fabrication de boissons au sens large. Donc on fait des jus de fruits, mais pas que. On fait aussi tout type de boissons, donc des sodas, des vins, des alcools, de la fermentation.
Alors maintenant qu'on a situé ce que vous faisiez et avec quoi, les questions de Jean-Christophe et Tanguy. On commence par qui ? Vous, Tanguy ?
Allez, c'est parti. Quand on produit, on développe des boissons, donc des saveurs quelque part, comment est-ce qu'on fait pour ne pas trop se planter ? Pour trouver la saveur, le goût qui va plaire, c'est quoi ? C'est vous essayez, vous mettez sur le marché, si ça marche, tant mieux, si ça ne marche pas, on retire. On essaye, on a droit à l'erreur.
Alors, effectivement, en tant que PME, alors on a une marque commerciale qui s'appelle Cœur de Pomme. C'est la marque à travers laquelle les consommateurs nous connaissent. Et cette marque-là, elle est essentiellement tournée autour du jus de fruits et notamment du jus de pomme, puisque Alain Péridi, qui était le fondateur de l'entreprise, avait des vergers. Donc j'allais dire un jus de fruits, un jus de pomme, finalement c'est assez simple. Après il faut trouver les bonnes variétés, mais quelque part le recettage est assez simple. Et effectivement, l'idée c'est de toujours aborder le marché par le goût. C'est-à-dire se dire on va faire un bon produit. Parce que si on fait un bon produit, on a des clients qui vont revenir. Et normalement, on peut considérer que c'est la recette du succès. Mais ça ne suffit pas, parce que dans le jus de pomme, il n'y a pas plus local et il n'y a pas plus goûteux que le jus de pomme du coin qu'on va chercher chez son petit producteur. Et quand on est à Strasbourg, on va toujours trouver un jus de pomme qui sera aussi bon, voire meilleur, que celui qui est fait par Cœur de Pomme. Donc il a fallu innover à travers les recettes, mais également à travers aussi les usages, les temps de consommation du produit, à travers les formats. Donc en fait, on va innover sur la recette, parce qu'on a des médailles au concours général, on a des récompenses assez, assez variées, mais la recette ne suffit pas en termes d'innovation.
Et en termes environnementaux, du coup, ça veut dire un choix, par exemple, des variétés de pommes locales, traitement, récupération. Quand on fait du jus, il y a forcément un, entre guillemets, déchet. Vous le réexploitez au niveau énergétique ?
Alors, aujourd'hui, la marque, moi je dis tout le temps que la marque est née d'une démarche RSE, puisque Alain Péridi, quand il a créé l'entreprise, il souhaitait mieux exploiter ce qu'on appelle les écarts de tri, donc les fruits moches qui n'arrivaient pas à être vendus dans les étals de supermarché. Déjà à la base, c'est ça, notre jus de pomme. C'est-à-dire qu'on n'a pas des vergers dans lesquels on produit de la pomme pour en faire du jus, on est vraiment dans une logique de récupération des écarts de tri. Ensuite, effectivement, pour faire un litre de jus de pomme, il faut 1,3 kg de pommes. Ça veut dire qu'on a 25% de déchets. Ces 25% de déchets, aujourd'hui, ils partent en méthanisation chez un agriculteur qui a construit son unité de méthanisation et donc qui est à une trentaine de kilomètres de chez nous. Ceci dit, ça ne suffit pas. Et donc, en fait, on a investi en 2019, dans le cadre d'un projet qui s'appelle Pominov, plus de 8 millions d'euros, hein, alors que le chiffre d'affaires de l'entreprise, pour vous donner une idée, c'est, on tourne autour des 10 millions d'euros. Donc, c'est un gros investissement sur une nouvelle unité de transformation qui devrait pouvoir permettre de récupérer à peu près 95% du fruit, au lieu des 75% aujourd'hui, pour que ce soit exploitable sur le plan alimentaire ou à défaut sur le plan cosmétique, voilà, sur d'autres secteurs. Et en tout cas, en se disant que la ressource alimentaire ne doit pas être dévoyée et ne doit pas être utilisée pour en faire de l'énergie.
Jean-Christophe, non, peut-être un autre commentaire.
Je rebondis. Donc pas du tout fan des biocarburants et ce genre de choses ? Des agrocarburants ?
Alors, c'est pas qu'on n'est pas fan en soi. Simplement, on se dit aujourd'hui, la population mondiale augmente, les surfaces agricoles diminuent à un moment donné. Essayons d'exploiter de la meilleure façon possible les ressources terrestres pour qu'elles puissent nourrir le monde, quoi. Mmh.
Jean-Christophe.
Oui, bonjour Olivier.
Bonjour.
Vous avez pas mal de casquettes différentes. Marketing, ça. Communication, innovation et RSE. Déjà, comment vous arrivez à gérer ces différentes casquettes qui, je pense, ne sont pas simples, même s'il y a des ponts et des liens entre chacune d'entre elles. Et ensuite, comment ça se matérialise, ça se concrétise et ça vit la RSE aujourd'hui chez vous ?
Alors, il y a deux questions. Sur la partie multicasquette, effectivement, alors j'avais échangé avec Billy, je pense que j'ai toujours, dans mon parcours, été un petit peu défricheur de sujets. Quand on met en place le service R&D dans l'entreprise, on trouve ça logique qu'il finalement il soit rattaché au service R&D, au service marketing. Sur la partie RSE, c'est pareil. On trouve assez logique de le rattacher à la direction, puisque je fais partie du comité de direction. Donc, il y a des ponts, il y a des passerelles. Aujourd'hui, moi, je gère un service avec des compétences derrière qui sont rattachées à chaque fonction. Donc, sur la fonction marketing communication, j'ai 3 personnes. Sur la fonction R&D innovation, j'ai un chef de projet. Et sur la fonction RSE, j'ai une animatrice RSE qui vient d'intégrer l'entreprise en début d'année pour que chacun, à travers son parcours, puisse gérer de façon très opérationnelle les sujets. Et moi, finalement, j'allais dire, je suis un peu plus le chef d'orchestre de tout ça et je me positionne davantage en tant que manager de projet, manager d'équipe que metteur en scène opérationnel.
Et vous avez du coup une stratégie formalisée avec des axes d'engagement, vous avez réussi à aller jusqu'au bout
de
la démarche ?
Sur la partie RSE, en fait, on est labellisé PME+. Alors, c'est un petit label qui est très orienté produit de grande conso, qui est porté par la FEF, Fédération des entreprises et entrepreneurs de France, qui s'appuie sur la norme ISO 26000. Hein, donc, en fait, effectivement, on a des engagements, on a un plan d'action. Aujourd'hui, on a une note à travers ce label qui est de 78 sur 100, par exemple. On est dans une démarche progressive et en fait, on a identifié 3 axes majeurs. C'est la réduction de notre impact environnemental. Parce que quand on passe de 9 salariés à 86 en 10 ans, ben à un moment donné, ça a un vrai impact et ça se voit. Donc, il faut qu'on gère ce sujet-là. Il y a le développement personnel des individus, parce qu'on est dans une région de plein emploi. On est dans l'ouest de la France, en Deux-Sèvres. On ne recrute pas les gens qu'on veut, on recrute les gens qu'on peut. Et donc, ces gens-là, ben, il faut les former. Ils n'ont pas forcément le bagage initial pour intégrer une entreprise d'agroalimentaire. Donc, il faut qu'on puisse faire en sorte qu'ils apprennent le métier, qu'ils s'acculturent à l'entreprise et au positionnement RSE. Et puis, on a tout notre ancrage territorial lié, effectivement, j'allais dire, à la base, à notre parcours un peu agricole. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les pommes sont issues du territoire. On a 80% des approvisionnements de pommes aujourd'hui qui sont issus du territoire. Les 20% restants, c'est origine France, garantie, mais parce qu'on est sur des filières spécifiques, on est sur du label Bee-friendly, on est sur du label garantie zéro résidu de pesticides. Donc les 3 axes majeurs, c'est ça en fait.
Alors c'est hyper intéressant justement ce que vous dites. Vous avez pas mal parlé avant sur l'aspect rentabilité à aval. Et sur la partie amont, justement, est-ce que vous travaillez ou encouragez, que ce soit à travers votre propre filière ou vos fournisseurs, des démarches type permaculture ou autre, où on va venir justement encourager, augmenter le rendement des sols?
Ouais, alors en fait, on est. Alors sur la permaculture, non, mais en revanche, sur des labels, on va être effectivement. Quand je parle de label BeFriendly, de label HVE, de label zéro résidu de pesticides, c'est des labels qu'on va beaucoup trouver au rayon fruits et légumes, mais que nous, on va transposer dans le rayon liquide. Pour, j'allais dire, que ces labels-là aient une visibilité et une fenêtre supplémentaire de communication. Donc, en cela, en fait, on incite nos fournisseurs à s'engager dans ces filières-là.
Merci, messieurs, pour vos questions. Il nous a mis l'eau à la bouche hein, avec ce jus de pomme. On va rester une seconde dans la cuisine. C'est votre passion. Votre papa était cuisinier dans une collectivité. Il vous a donné le goût de cuisiner, plus les bons produits que vous connaissez par cœur. Mais vous êtes un garçon qui marche à l'intuition. Jamais de recette. J'ouvre le frigo, je regarde ce qu'il y a et je cuisine. C'est bien ça?
Alors, jamais de recette, pas tout le temps, mais effectivement, j'aime faire ce qu'on appelle la cuisine du placard. C'est peut-être mon petit côté anti-gaspi, mais en tout cas, mes filles me le reprochent parfois en me disant, mais papa, tu nous fais jamais la même recette. Et nous, si on veut apprendre à cuisiner, comment on fait? Voilà, donc effectivement, j'y vais un peu à l'intuition. Ouais.
Il nous manque plus que votre adresse pour qu'on s'invite à dîner, et ce sera avec plaisir, je le sais. Merci beaucoup, Olivier,
merci
d'être
vous.
Venu nous voir. Merci à Tanguy et Jean-Christophe qui ont co-animé cette émission. C'est la fin de ce numéro de RSE Radio. Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn. On se donne rendez-vous mardi prochain à 14h précise pour une nouvelle émission.
L'invité de la semaine de RSE Radio, une production B2B Radio.tv en partenariat avec Nitron et le groupe EPSA.